Lorsque j'eus l'occasion d'aller en France, c'était presque à la fin du dernier règne. Le clergé, sous toutes ses formes, attira une grande partie de ma curiosité. Bien loin de recueillir contre ce corps des plaintes et des mécontentements, comme j'avais lieu de m'y attendre, d'après quelques ouvrages que j'avais lus, je n'entendis aucune déclaration, ni publique ni privée, si ce n'est cependant parmi une certaine classe d'hommes, peu nombreuse, mais bien active. Allant plus loin dans mes recherches, je trouvais, presque toujours, le clergé composé d'hommes d'un esprit modéré et de mœurs décentes. J'y comprends les réguliers et les séculiers des deux sexes. Je ne fus pas assez heureux pour avoir des relations avec un grand nombre de curés. Mais, en général, je reçus les meilleures informations sur leurs principes de morale et sur leurs ailes à remplir leurs fonctions. J'ai été lié avec quelques personnes du haut clergé, et j'ai eu sur le reste de cette classe les meilleurs renseignements. Presque tous ceux qui la composent sont des hommes de naissance. Ils ressemblaient à tous ceux de leur rang, et lorsque j'y ai remarqué quelques différences, je les ai trouvés en leur faveur. Leur éducation était plus accomplie que celle de la noblesse militaire, en sorte qu'il s'en fallait de beaucoup qu'ils ternissent l'éclat de leur profession par leur ignorance ou pour leur manque d'aptitude dans l'exercice de leur autorité. J'ai vu en eux, outre le caractère clérical, noblesse et franchise. Ils avaient les sentiments du gentilhomme et de l'homme d'honneur. Rien de servile, rien de hautain dans leur manière et dans leur conduite. Je les ai réellement considérés comme composant une classe tout à fait supérieure, comme un choix d'hommes parmi lesquels vous n'auriez pas été surpris de trouver un Fénelon. J'ai vu dans le clergé de France, et nulle part on ne peut en rencontrer beaucoup de cette sorte, des hommes d'un grand savoir et d'une parfaite candeur. J'ai même été fondé à croire que cet avantage n'était pas exclusif à la capitale. Les rencontres que j'ai faites dans d'autres endroits de ce royaume, ayant été un effet du hasard, on peut regarder l'exemple que j'en puis citer comme une preuve favorable à l'ordre tout entier. Je demeurai quelques jours dans une ville de province où, en l'absence de l'évêque, je passai mes soirées avec trois ecclésiastiques, ces grands vicaires, hommes dont toute l'Église se serait honorée. Tous les trois étaient fort instruits. Deux d'entre eux possédaient une érudition profonde, générale, soit dans l'Antiquité, soit dans les temps modernes, soit dans les sciences orientales, soit dans celles de toutes les contrées occidentales, et plus particulièrement encore, dans tout ce qui est relatif à leur profession. Ils avaient une connaissance beaucoup plus étendue de nos théologiens anglais que je ne m'y étais attendu. Et ils dissertèrent avec beaucoup d'esprit, de sagacité et de discernement critique sur le génie de ces écrivains. Un de ces messieurs est mort depuis, c'était l'abbé de Morangy. J'offre avec plaisir ce tribut d'hommage à la mémoire de cette noble, savante, respectable et excellente personne. Et j'éprouverai autant de satisfaction à rendre au mérite des deux autres, qui je crois existent encore, une semblable justice, si je ne craignais pas de nuire en les nommant, à des êtres malheureux auxquels je n'ai pas la consolation de pouvoir être utile. Quelques-uns de ces ecclésiastiques de haut rang réunissent toutes sortes de titres à un respect général. Ils ont des droits à ma reconnaissance et à celle de beaucoup d'Anglais. Si jamais cette lettre tombe dans leurs mains, j'espère qu'ils seront bien persuadés qu'il existe dans notre nation des hommes qui partagent avec une sensibilité peu commune la douleur que doit inspirer leur destruction injuste et la confiscation cruelle de leur fortune. Ma voix en ce moment, autant qu'une faible voix peut se faire entendre, rend témoignage à la vérité. Je la renouvellerai toutes les fois que j'entendrai parler de cette persécution monstrueuse. Non, jamais rien ne pourra m'empêcher d'être reconnaissant et juste. Le moment actuel réclame ce devoir. Et c'est quand ceux qui ont bien mérité du genre humain et de nous gémissent sous le poids des calomnies du peuple et sous les persécutions d'un pouvoir oppresseur qu'il nous convient le mieux de faire éclater notre justice et notre gratitude. Vous aviez, avant votre révolution, 120 évêques environ. Un certain nombre parmi eux étaient remarquables par un savoir éminent, par une charité sans bornes. Tout le monde sait que lorsqu'on parle d'une vertu héroïque, c'est en même temps parler d'une vertu rare. Je crois que les exemples d'une dépravation excessive étaient plus rares parmi eux que ceux d'une perfection transcendante. On peut citer des exemples d'avarice et de dérèglement. C'est un point que je ne dispute pas à ceux qui trouvent quelque charme à ce genre de découverte. Aucun homme de l'âge auquel je suis parvenu ne sera étonné de remarquer que dans chaque classe de la société, il existe quelques hommes qui n'ont point cette abnégation des richesses et des plaisirs que tout le monde souhaiterait qu'ils eussent, que quelques personnes attendent d'eux, mais qu'aucune n'exige avec plus de rigueur que celles qui sont les plus vigilantes sur leurs propres intérêts et les plus indulgentes pour elles-mêmes. Lorsque j'étais en France, je suis certain que le nombre des prélats répréhensibles n'était pas considérable. Quelques individus parmi eux, s'ils étaient moins réguliers dans leurs mœurs, rachetaient par des qualités nobles ce qui manquait à la sévérité de leur vertu. Ils avaient ces grands talents qui rendent les hommes utiles à l'Église et à l'État. J'ai entendu dire qu'à bien peu d'exceptions près, Louis XVI avait été plus attentif que son prédécesseur à peser le mérite avant de les élever à cette dignité. Et je crois, d'après l'esprit de réforme qui a dominé dans tout ce règne, que cela doit être vrai. Mais le pouvoir qui gouverne aujourd'hui n'a montré de disposition qu'à piller l'Église. Il a puni tous les prélats, ce qui, en fait de réputation, est au moins favorisé les vicieux. Il a fait une disposition avilissante de salaire qui empêchera tout homme d'un esprit élevé ou d'une condition noble de destiner ses enfants à cet état. Il est désormais abandonné à la classe inférieure du peuple. Comme votre bas clergé n'est pas assez nombreux pour les devoirs qu'il doit remplir, comme ces devoirs sont excessivement détaillés et pénibles, comme vous ne laissez aucune aisance à la classe mitoyenne, il en résulte que pour l'avenir, toute science et toute érudition seront bannies de l'Église gallicane. Pour mettre la dernière main à l'exécution du projet, on a, sans aucun égard pour les droits des seigneurs patrons, décidé que dorénavant, toutes les nominations seront faites par des élections. Disposition qui éloignera tous les hommes modérés de l'exercice de la cléricature, qui en éloignera de même tous ceux qui peuvent prétendre à conserver de l'indépendance dans leurs fonctions et dans leur conduite, et qui relèguera tout le soin de la direction de l'esprit public dans les mains d'une bande de misérables licencieux, entreprenants, rusés, factieux et adulateurs. Tels par leurs conditions et par leur genre de vie, qu'ils n'auront aucune honte de se faire un but infâme de l'obtention de ces méprisables salaires qui leur seront accordés. Salaires auprès desquels les gages d'un commis de barrière paraîtront lucratifs et honorables. Ces officiers, qu'ils appellent encore évêques, seront élus par des procédés qui, relativement à eux, sont tout aussi bas. Les mêmes artifices, ceux des élections, seront mis en jeu par des hommes de toutes les croyances connues ou qui restent à inventer. Vos nouveaux législateurs n'ont encore rien statué sur les fonctions qu'ils auront à remplir relativement à la nature de la doctrine ou de la morale. Ils ne l'ont pas fait davantage à l'égard du clergé en sous-ordre. Ce qui apparaît seulement par rapport aux deux classes du clergé, c'est que l'une et l'autre peuvent, à discrétion, pratiquer ou prêcher tout ce qu'il leur plaira, en fait de religion ou d'irréligion. Je ne vois pas encore quelle juridiction les évêques exerceront sur ceux qui leur sont subordonnés ou s'ils doivent avoir quelque espèce de juridiction. Enfin, monsieur, on dirait que cette nouvelle constitution ecclésiastique n'est que momentanée et qu'elle est seulement préparatoire pour opérer la destruction future et totale de la religion chrétienne, de quelque nature qu'elle soit, lorsque les esprits des hommes étant assez préparés, il sera temps de lui porter ce dernier coup. Et certainement, le mépris universel auquel on voue ces ministres est un gage assuré du succès. Ceux qui se refuseraient à croire que les fanatiques philosophes qui conduisent toutes ces menées en eussent longtemps d'avance formé le dessein, connaîtraient donc bien peu leur caractère et leur manière d'agir. Ces enthousiastes ne se font point un scrupule d'avouer qu'ils pensent qu'un État peut bien mieux subsister sans aucune religion qu'avec une seule, et qu'ils sont capables de remplacer le vide de tout le bien qu'elle peut procurer par un projet de leur invention, savoir, par une espèce d'éducation qu'ils ont imaginée, laquelle est fondée sur la connaissance qu'ils ont des besoins physiques des hommes, ces besoins conduisant par degrés à un intérêt personnel qui, étant bien entendu, s'identifie avec un intérêt plus étendu, avec l'intérêt public en un mot. Le plan de cette éducation a été connu depuis longtemps, mais depuis peu, il a reparu sous un nom nouveau parce que ces messieurs ont adopté une nomenclature entière de termes techniques sous le nom d'éducation civique. J'espère que leurs partisans en Angleterre, partisans que j'accuse plutôt d'inconsidération dans leur conduite que je ne les soupçonne de vouloir les imiter dans leurs desseins détestables, ne réussiront ni dans le pillage de l'Église, ni dans l'idée d'introduire les principes d'une élection populaire pour remplir nos sièges épiscopaux et les chaires de nos paroisses. Ce serait, dans l'état actuel où sont les choses, le dernier terme de la corruption de l'Église, le dernier degré de la ruine du caractère ecclésiastique. Et ce choc serait plus dangereux pour l'État que ne l'a été aucun de ceux qu'il a reçus jusqu'à présent dans les dissensions occasionnées par la religion. Je sais très bien que, sous le patronage du roi ou sous celui des seigneurs, tels qu'ils existent l'un et l'autre en Angleterre, et tels qu'ils existaient dernièrement en France, on a vu quelquefois obtenir des évêques et des cures par des moyens qui n'étaient pas louables. Mais l'autre manière de briguer les emplois de l'Église est infiniment plus sujette à toutes les menées obscures d'une vile ambition, laquelle, tourmentant une foule plus nombreuse d'individus, produit dans la même proportion un bien plus grand nombre de désordres. Ceux d'entre vous qui ont dépouillé le clergé s'imaginent que leur conduite sera aisément approuvée de toutes les nations protestantes, parce que le clergé, qu'ils ont ainsi pillé, dégradé, livré au mépris et à la dérision, est romain catholique, c'est-à-dire de leur propre prétendue croyance. Je ne doute pas qu'il ne se rencontre ici, aussi bien qu'ailleurs, quelques misérables bigots qui haïssent les sectes qui diffèrent de celles qu'ils ont suivies, bien plus qu'ils ne chérissent la substance même de leur religion, et qui sont bien plus animés contre ceux qui s'écartent d'eux, dans leurs plans et dans leur système particulier, qu'ils n'ont d'aversion pour ceux qui attaquent la base même de nos espérances communes. De telles âmes écriront et parleront sur ce sujet de la manière dont on doit s'y attendre, d'après leur humeur et d'après leur caractère. Burnet dit que, lorsqu'il était en France en 1783, le moyen qui fit ranger du côté du papisme les hommes du plus grand mérite fut celui-ci. Ils prirent le parti de douter de la totalité de la religion chrétienne. Cela une fois fait, rien ne leur paraissait plus indifférent que le côté qu'ils choisiraient ou le parti qu'ils suivraient dans leur profession extérieure. Si telle était alors la politique de la France, elle n'a aujourd'hui que trop de raisons de s'en repentir. Elle a préféré l'athéisme à une forme de religion qui ne cadrait pas avec ses idées. Elle a réussi à détruire cette forme, et l'athéisme, à son tour, est venu la détruire. Je suis assez disposé à croire à l'autorité de Burnet, parce que, parmi nous-mêmes, j'ai remarqué qu'il existait trop de ce même esprit, car en avoir un peu, c'est en avoir beaucoup trop. Cette disposition d'esprit, au surplus, n'est pas générale. Ceux qui étaient à la tête de la réforme de notre religion en Angleterre n'avaient aucune ressemblance avec vos docteurs réformateurs de Paris. Peut-être, et en cela ils ressemblaient à ceux qui étaient dans le parti opposé, étaient-ils, plus qu'on ne devait le désirer, soumis à l'influence de l'esprit de parti. Mais ils avaient une croyance sincère. C'étaient des hommes d'une piété fervente et exaltée. Ils étaient prêts à mourir. Et, en effet, plusieurs d'entre eux moururent, pour défendre avec héroïsme leurs idées particulières sur le christianisme. Ils l'auraient fait avec un courage égal et avec plus de sérénité encore pour le tronc même de cette vérité universelle pour les branches de laquelle ils combattaient au prix de leur sang. Ils auraient désavoué avec horreur tous ces gens qui auraient voulu s'associer à eux sans y apporter d'autre titre que d'avoir pillé les personnes avec lesquelles ils avaient établi une controverse. Que d'avoir méprisé la religion pour la pureté de laquelle tous leurs efforts affichaient un zèle qui faisait connaître d'une manière non équivoque avec quel respect ils révéraient le fond même d'un système dont ils ne souhaitaient que la réforme. Beaucoup de leurs descendants ont conservé le même zèle. Mais comme il a moins à combattre, il est plus modéré. Il n'oublie pas que la commisération et la justice sont des parties intégrantes de la religion. les impies ne rendent leur cause ni meilleure ni plus recommandable par les iniquités et les cruautés qu'ils commettent envers quelque classe de leurs concitoyens que ce puisse être. Nous entendons ces nouveaux enseignants se vanter sans cesse de leur esprit de tolérance. Tolérer toutes les opinions n'est assurément pas un mérite à remarquer lorsqu'on pense qu'il n'en est aucune qui soit digne d'estime. Un mépris égal n'est pas une bonté impartiale. L'espèce de bienveillance qui ne vient que du mépris n'est point une véritable charité. Nous avons en Angleterre beaucoup de personnes qui ont le véritable esprit de tolérance. Elles croient que les dogmes de la religion ont tous leur importance, quoique dans des degrés différents, et que parmi eux, il en existe, comme parmi toutes les choses estimables, qui ont de juste titre à la préférence. Elles supportent donc et elles tolèrent. Elles tolèrent non pas d'après un esprit de mépris pour les opinions, mais parce qu'elles respectent la justice. Elles voudraient protéger avec respect et avec affection toutes les religions, parce qu'elles chérissent et qu'elles révèrent le grand principe dans lequel elles s'accordent toutes et le grand objet vers lequel elles sont toutes dirigées. Elles commencent à découvrir de plus en plus, d'une manière évidente, que nous avons tous une cause commune, puisqu'elle est contre un ennemi commun. Elles ne sont pas égarées par l'esprit de faction pour ne pas discerner ce qui n'est fait qu'en faveur de leur propre croyance, de ces actes d'hostilité qui, ne paraissant dirigés que contre une classe particulière, le sont cependant en effet contre la totalité du corps de l'Église, dans lequel ils sont compris sous une dénomination quelconque. Il m'est impossible de dire ce que peut être le caractère de chaque espèce d'homme parmi nous, mais je parle de la plus grande partie, et en leur nom, il faut que je vous dise que le sacrilège ne fait pas partie de la doctrine de leurs bonnes œuvres, que, bien loin de vous appeler à leur croyance, à un tel titre, si vos professeurs étaient mis dans leur communauté, il faudrait qu'ils cachassent avec soin cette doctrine qui établit comme juste la proscription d'hommes innocents et qu'ils fissent la restitution des biens de toute espèce qu'ils ont volés. Jusque-là, ils ne seront jamais des nôtres. Vous pouvez supposer que nous n'approuvons pas la confiscation que vous avez faite des revenus de vos évêques, de vos doyens, de vos chapitres et de vos curés qui possédaient sur le produit des terres des revenus indépendants parce que nous avons en Angleterre la même nature d'établissement. Mais vous supposerez aussi que la même objection ne peut pas avoir lieu à l'égard de la confiscation des biens des moines et des religieuses, ainsi que de l'abolition de leurs ordres. Il est vrai que cette partie de votre confiscation générale n'affecte pas l'Angleterre sous le rapport de l'exemple. Mais le principe est applicable à l'espèce et il s'étend loin. Le long Parlement confisqua les terres des doyennés et des chapitres en Angleterre d'après les mêmes idées qui ont fait mettre en vente les biens des ordres religieux. Mais ici, le danger réside principalement dans le principe de l'injustice et non pas dans la qualité des personnes sur lesquelles on l'exerce. Je vois, dans une contrée toute voisine de la nôtre, suivre une marche politique qui attaque en tout point la justice, cet intérêt universel pour tout le genre humain. Aux yeux de l'Assemblée nationale, la possession n'est rien, la loi et l'usage ne sont rien. Je vois qu'elle réprouve absolument la doctrine de la prescription, laquelle, d'après l'autorité d'un de vos propres jurisconsultes, Doma, nous avons appris à regarder comme une partie de la loi de nature. Cet auteur nous apprend que la fixation certaine de ses limites et sa sécurité contre l'invasion était une des principales causes pour lesquelles la société civile elle-même avait été établie. Si vous ébranlez une fois la prescription, il n'est plus aucune espèce de propriété qui puisse être assurée, dès qu'elle devient assez considérable pour exciter la cupidité d'un pouvoir indigent. La conduite que l'on tient en France correspond parfaitement avec le mépris qu'a l'Assemblée pour cette portion intégrante de la loi de nature. Je vois que les confiscations ont commencé par les évêques, par les chapitres, par les monastères. Mais je ne les vois pas s'arrêter là. Je vois les princes du sang, qui, par les plus anciens usages de ce royaume, tenaient de grands apanages, privés de leurs possessions, à peine avec les honneurs d'un débat, et réduits, au lieu de jouir de leurs propriétés indépendantes, à l'espérance d'une pension précaire et de charité, sous le bon plaisir d'une assemblée, qui pourrait bien encore ne pas avoir beaucoup d'égards pour les droits de ses pensionnaires, puisqu'elle méprise ceux des propriétaires légaux. Tout échauffé par l'insolence de leur première et humiliante victoire, excité par les malheurs mêmes occasionnés par leur avidité pour un lucre impie, trompés dans leur attente, mais non pas découragés, vos législateurs se sont, à la fin, entièrement abandonnés à la subversion de toutes les propriétés de tous les genres, dans toute l'étendue d'un grand royaume. Ils ont forcé tous les hommes, dans toutes les opérations de leur commerce, dans la disposition des terres, dans les traités civils et dans toutes les relations de la vie, à accepter, comme un parfait paiement et comme une offre bonne et légale, les symboles de leur spéculation sur la vente projetée de leur pillage. Quelles traces de liberté ou de propriété ont-ils laissé? L'ombre même de la propriété, dans les choses les plus viles, est traitée avec plus de cérémonie dans notre Parlement que vous n'en faites chez vous pour les possessions les plus importantes et les plus anciennes, dans les mains des personnages les plus respectables, ou pour tous les intérêts réunis de vos capitalistes et de vos négociants. Nous maintenons le respect pour l'autorité législative. Mais nous n'avons jamais rêvé que les parlements eussent un droit quelconque de violer la propriété, de détruire la prescription, ou de substituer le cours forcé d'une monnaie de leur invention à celle qui est réelle et reconnue par la loi des nations. Quant à vous, qui commençâtes par refuser de vous soumettre à la contrainte la plus modérée, vous avez fini par établir un despotisme inouï. J'ai découvert la base sur laquelle se fondent tous vos spoliateurs. Il n'est assurément aucune cour de justice qui puisse approuver leur procédé, mais ils disent que les règles de la prescription ne peuvent pas enchaîner une assemblée législative. Ainsi donc, cette assemblée législative d'une nation libre ne siège pas pour la sûreté, mais pour la destruction des propriétés, et non seulement de la propriété, mais même de toute espèce de règle ou de maxime propre à lui donner de la stabilité, et de cet instrument qui peut seul en maintenir la circulation, l'espèce monnayée ou le numéraire. Lorsque les anabaptistes de Münster, dans le XVIe siècle, eurent, par leurs opinions sauvages et par leur système d'égalité sur les propriétés, porté la confusion dans toute l'Allemagne, quelle contrée de l'Europe ne fut pas justement alarmée par la crainte des progrès de leur fureur systématique? Il n'existe rien qui inspire à la sagesse une plus grande terreur que le fanatisme épidémique, parce que, de tous les ennemis, c'est celui contre lequel elle est le moins capable d'employer aucune espèce de ressource. Nous ne pouvons pas ignorer l'esprit fanatique d'athéisme qui est inspiré par une multitude d'écrits que l'on disperse avec une profusion de dépenses et une assiduité incroyable, même par le moyen des harangues dans toutes les rues et dans toutes les places les plus fréquentées de Paris. Ces écrits et ces discours ont donné à la populace une atrocité d'esprit, noire et farouche, qui domine en eux les sentiments inspirés par la nature, aussi bien que tous ceux de la morale et de la religion.